Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose un sujet particulièrement sérieux. L'humour. Enfin, je veux dire, l'humour en musique, bien évidemment. Et sous toutes ses formes. De la parodie au détournement, en passant par les pochades, les pastiches, satires et autres fantaisies. En un mot, voulez-vous faire l'humour avec moi ? Gognard du scherzo humoristique de Prokofiev par les bassonistes de l'Opéra de Paris. Et je ne sais pas vous, mais moi, en repensant au grand-père basson de Pierre et le Loup, j'imaginais tout à coup quatre grands-pères se réunissant pour bavarder, grommeler ou se plaindre doucement comme au milieu de la pièce. Enfin bref, on peut dire qu'avec les bassons, l'humour, c'est grave. Parlons maintenant d'un tout autre humour que j'appellerais volontiers « humour d'interruption ». Tenez par exemple dans le dernier mouvement de la 60e symphonie de Haydn, surnommé « Le Distrait ». Ça commence tout à fait normalement, avec toute l'énergie et le pimpant d'un final de symphonie, quand au bout de seulement 10 secondes de jeu, les violons interrompent le mouvement pour s'accorder. Et tout cela est précisément noté par Haydn dans la partition.
Thank you.
Espérons que les musiciens du Giardino Armonico et leur chef Giovanni Antonini ne se seront pas laissés distraire par ce final de la 60e symphonie de Haydn, sous-titré, je vous le rappelle, « Le distrait ». Et maintenant, je vous propose d'emmener Papa Haydn au cirque. C'est l'impression que j'ai lorsque j'écoute le premier mouvement de la 9e symphonie de Shostakovich. Car vous allez voir, ça commence en quelque sorte comme du Haydn, avant de basculer du côté du cirque. Une musique à la fois noble et triviale, opposant les styles et les énergies, et faisant défiler le classicisme des cordes, la goguenardise du hautbois, la balourdise du trombone et l'ironie du piccolo. Un humour que je qualifierais volontiers d'humour de juxtaposition. l'excellent orchestre philharmonique de Munich, dirigé par Valéry Gergiev, nous faisait entendre le premier mouvement de la 9e symphonie de Dimitri Chostakovitch. Et en l'écoutant, j'essayais de comprendre dans quel état d'esprit pouvait être le compositeur en pratiquant avec autant de virtuosité cet humour au deuxième degré alors que la Seconde Guerre mondiale venait tout juste de se terminer. Entrons maintenant dans le domaine de l'humour grivois, pour ne pas dire carrément cochon. Et pour cela, je vous propose de faire un petit tour du côté de la Renaissance, dont il faut bien dire que c'était l'une des spécialités. C'est l'époque de ce que l'on appelle la chanson parisienne. Des compositions la plupart du temps à quatre voix, chantées a cappella et, comme on disait à l'époque, es maison, puisque le concert tel que nous l'entendons aujourd'hui n'existait pas au XVIe siècle. Et donc certaines de ces chansons parisiennes parlaient abondamment de la chose, mais en des termes parfois très crus, ce dont on raffolait à l'époque. Exemple avec la chanson « Un jour Robin » de Clément Jeannequin, dont je vous propose tout de suite de dire le texte avant que nous ne l'entendions chanter. Un jour, Robin vint Margot empoignée et, sans parler, la voulut besogner. Mais Margot dit, en lui montrant l'outil de son ouvrage, « Vous me feriez outrage, il est trop gros et long. »« Bien, dit Robin, tout en votre fendasse, j'y mettrai seulement la moitié. »« Ah, dit Margot en faisant la grimace, boutez-y tout, aussi bien suis-je morte. » Accélérando très suggestif sur le verbe bouter, je ne vous fais pas un dessin. C'était Un jour Robin, une chanson parisienne de Clément Jeannequin, interprétée par l'ensemble Clément Jeannequin. Alors vous avez peut-être pensé que c'était une femme qui tenait la partie supérieure, mais non, c'était celle du formidable contre-ténor Dominique Wyss, le fondateur de l'ensemble. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il me semble que l'humour de ce qu'on vient d'entendre tient justement dans la contradiction entre la joliesse et l'élégance de l'écriture vocale et la crudité des mots et des situations évoquées. C'est également le procédé du canon vocal Bonanox de Mozart, sauf que de l'humour grivois, nous passons plutôt ici un humour de style, comment dire, pipi-caca. C'est que dans la famille Mozart, et c'était même assez répandu dans un certain milieu viennois, on terminait volontiers une lettre, un poème ou une chanson par une dernière phrase du style « Dors bien et pète au lit jusqu'à ce que ça explose. » Et là, je cite quand même une lettre de la mère de Mozart à son mari Léopold. Alors depuis le film Amadeus, on a glosé à l'envi sur les tendances scatologiques de Mozart. Scatologique, c'est un bien grand mot. Je parlerai plutôt d'un humour enfantin, un peu l'équivalent de nos poils au cul, poils au nichon actuels. Et maintenant, il faut s'imaginer Mozart en 1788 chanter ce canon entouré de ses amis entre la poire et le fromage. Bonanox, bonanotte, bonne nuit, good night, gute nacht. Jusque-là, rien de particulier à signaler, si ce n'est les cinq langues utilisées. Mais c'est à la fin que ça se corse, et en dialecte bavarois, s'il vous plaît. Scheiß ins Bett das Kracht, pète au lit et que ça fasse du bruit, und reg den Arsch zum Mund, et remonte-toi le cul jusqu'à la bouche.
Bonanox, bist der rechte Ochs.
Bonanox,
bist der rechte
Ochs.
Bonanox,
liebe Nacht,
gute Nacht, gute Nacht,
ins Bett, das
Kracht. Gute Nacht,
gute Nacht,
schlaf
gute Nacht,
und rechts, scheiß ins Bett,
das Kracht.
Gute Nacht,
schlaf
weit
sonst,
und rechts, scheiß ins Bett,
das Kracht.
Gute Nacht,
Bonanox,
und rechts, scheiß ins Bett,
das Kracht.
Gute Nacht,
Bonanox,
charmant, n'est-ce pas? En tout cas, tous mes remerciements à Anne von Tenen, professeur d'allemand au lycée Condorcet, pour m'avoir éclairé sur les subtiles distinctions entre dialecte bavarois et dialecte viennois. Mais vous allez me dire, dès qu'il y a les paroles, c'est facile de faire de l'humour en musique. Là où ça se complique, c'est quand il n'y a que les instruments. J'avais prévu l'objection. Et c'est pourquoi je vous propose maintenant, toujours de Mozart, un extrait d'une œuvre composée à la même époque et nommée une plaisanterie musicale, Ein musikalischer Spaß. Il s'agit d'une satire de ses collègues compositeurs dont il brocarde l'absence d'invention, les modulations hasardeuses et les carrures boiteuses, sans compter quelques fausses notes par-ci par-là qui viennent ajouter encore un peu plus de confusion à cette œuvre drôlatique. Allez, on en écoute le second mouvement, un menuet lourdingue et maladroit, avec ce même plaisir particulier qu'on a à regarder un navet au cinéma.
Thank you.
lourdeur, fausse note, platitude, tout est écrit, tout est voulu dans ce que vous venez d'entendre. C'était donc le menuet de la plaisanterie musicale de Mozart, et je vois d'ici les sourires des musiciens de l'orchestre de chambre Orpheus interprétant cette cruelle satire des compositeurs sans technique et sans inspiration. Alors puisque nous parlons des collègues compositeurs de Mozart, vous avez sans doute entendu parler de l'invraisemblable légende de son empoisonnement par son confrère Antonio Salieri. Tout ça parce que devenu complètement sénile à la fin de sa vie, Salieri a un jour déliré qu'il avait assassiné Mozart. À partir de cette légende, le grand poète et dramaturge russe Alexandre Pouchkine écrit en 1830 une pièce de théâtre intitulée « Mozart et Salieri », plus tard transformée en opéra par Rimsky-Korsakov. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 1979, le dramaturge anglais Peter Schaeffer écrit une pièce de théâtre donnée pour la première fois à Paris au Théâtre Marigny, avec Roman Polanski dans le rôle de Mozart et François Perrier dans le rôle de Salieri. Dans le public de l'avant-première se trouve Miloš Forman, qui demande à l'entracte à Schaeffer l'autorisation d'adapter sa pièce au grand écran. Le film Amadeus sera couronné meilleur film aux Oscars, aux Golden Globes et aux Césars. Mais aussi génial soit le talent de Miloš Forman, on ne répétera jamais assez qu'il n'est qu'un tissu d'approximation historique et qu'il campe à Mozart ayant assez peu de rapport avec la réalité du personnage. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien pour vous présenter un impayable détournement signé du compositeur américain Peter Schickele, alias Pidi Kubak. Celui-ci a en effet l'idée en 1982 de transformer la petite musique de nuit en opéra, superposant à la partition originale pour cordes des interventions chantées en anglais. La dernière scène de cet opéra détournement imagine que c'est en fait par accident que Salieri a empoisonné Mozart, ayant été bousculé au moment de verser du poison dans le verre destiné à quelqu'un d'autre. Un humour complètement loufoque à la Monty Python que je vous laisse maintenant savourer.
What chutzpah, what nonsense, you've got some gall.
You cannot face the awful truth, my friend.
I'm not your friend at all. What rubbish, what drivel, you've got your nerve.
You cannot face the awful truth, my friend.
You'll get what you deserve.
Yes, you will get what you deserve,
sir, 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 sir. Spent a lifetime writing music in the service of the Lord, and now this uncouth little genius comes on board.
But he is no threat at all, he's no threat at all, 'tis no, no sweat at all.
You're lying, and I can tell.
And I can tell you where to go, my friend.
You're lying, but not well.
Well, I'm beginning to get quite angry.
Angry
soon I'll be an angry man.
I'll be a very angry man.
You're crazy, you're silly, and you're a bore.
You cannot face the awful truth, my friend.
I cannot take much more.
Oh, no, I cannot take much more.
Worked so hard to make your music as inspiring as you could. Though he works half as hard, his music's twice as good.
But he is no threat at all, he's no threat at all, 'tis no, no sweat at all.
You're lying, and I can tell.
And I can tell you where to go, my friend.
You're lying, but not well.
Well, I'm continuing to get quite angry.
Angry,
yes, yes now you're an angry man. Now you're a very, very angry man.
Ha!
Ha! Ha! Obnoxious creep.
I pity you.
Well, I don't need your pious pity, and what's more, I don't need you.
I don't need you.
Christian man with patience and forgiveness in my soul. But if you push me, I might lose my self-control.
Hey, you are no threat at all. You're no threat at all. 'Tis no, no sweat at all.
That does it. I've had it right up to here.
You cannot face the awful truth, my friend.
Your end is drawing near.
I do believe I have finally shown.
Show me
why
I are an angry man.
I am a very, very angry man.
I've got some poison in this bottle here that should do the trick.
Oops.
Oh no, Herr Bach, look what you've done, you oaf, you bumped me and you made me poison the wrong one. A stupid clumsy oaf, a stupid clumsy oaf, that's what you are, that's what you are, that's what you are.
I'm feeling
thirsty, I'm in someone,
Oh, look what you've done, my favorite coat, look what you've done.
C'était le final de l'opéra pastiche de Peter Schickele, Little Nightmare Music. Nightmare, c'est-à-dire cauchemar, donc une petite musique de cauchemar, au lieu bien sûr du titre original Little Night Music, en français, une petite musique de nuit. Et nous passons maintenant à un humour bien particulier que je nommerais volontiers humour dépressif. Vous savez, comme le petit personnage de Charlie Brown, le maître de Snoopy dans Peanuts. Côté musique classique, il me semble bien que certaines pièces d'Eric Satie procèdent de cette même veine. Ainsi, ces véritables préludes flasques pour un chien, dont je vous propose d'écouter le deuxième, intitulé « Seul à la maison », pour lequel le compositeur précise qu'il doit être interprété avec tristesse. Grâce à cette courte pièce pour piano d'Eric Satie, vous savez désormais très exactement ce que ressent votre chien lorsque vous le laissez seul à la maison. Nous écoutions l'un des véritables préludes flasques pour un chien de 1912 dans l'interprétation historique de Jean-Joël Barbier. Une dizaine d'années plus tard, le compositeur allemand Paul Hindemith livre une étonnante partition titrée Minimax, répertoire pour orchestre militaire, partition écrite pour le Festival de musique contemporaine de Donaueschingen et jouée par son propre quatuor à cordes, le quatuor à marre dont il est l'altiste. Le cinquième mouvement de ce Minimax est une satire drôlatique d'une polka fantaisie pour deux piccolos et orchestre d'harmonie intitulée « Deux petits pinsons », titre qui devient chez Hindemith « De saleté de joyeux pinsons » grâce à un savoureux jeu de mots entre « Finken », « pinson » et « Mistfink », une injure que je préfère ne pas traduire ici. Un humour parodique, jouant sur la superposition passablement incongrue de deux violons imitant deux fifres dans le suraigu, tandis que l'alto et le violoncelle ne cherchent pas à masquer la lourdeur de leur accompagnement. Et dans l'enregistrement que vous allez entendre maintenant, on peut deviner au rire du public que les instrumentistes accompagnent leur interprétation de quelques pitreries scéniques.
Thank you.
C'était Die Beiden Lustigen Mistinken, cinquième mouvement du Minimax de Pauline de Mitte, et j'en profite pour remercier chaleureusement le germaniste Joël Potier qui m'a fait connaître la polka fantaisie à l'origine de cette parodie et permis de comprendre l'étonnant titre de la pièce reposant sur un jeu de mots totalement intraduisible en français. Alors s'il y a un compositeur dans l'histoire qu'on n'imagine pas un instant dans le registre humoristique, c'est bien Richard Wagner. Seulement ses opéras firent l'objet de tant d'adulation, de tant de fascination, qu'ils suscitèrent forcément caricatures et détournements, en particulier par des compositeurs français comme Chabrier, Debussy, Ravel, Fauré ou Messager. Ces deux derniers, condisciples de la prestigieuse école Niedermeyer, composent en 1888 un quadrille parodique pour piano à quatre mains à partir des thèmes des Nibelungen. Voici donc les 15 heures de la tétralogie résumées en moins de 5 minutes sous la forme d'un quadrille, la danse de groupe alors très en vogue dans les salons français, organisée en cinq figures au nom passablement énigmatique, pantalon, été, poule, pastourelle et galop. Et même si vous n'êtes pas un grand spécialiste de Wagner, je suis sûr que vous reconnaîtrez au moins dans la première de ces cinq séquences le fameux thème de la chevauchée des Valkyries.
Thank you.
Christian Ivaldi et Noël Lee interprétaient à la perfection « Souvenir de Bayreuth », pièce pour piano à quatre mains de Gabriel Fauré et André Messager. Outre satire du grand opéra, l'opérette. Je vous propose d'aller faire un tour du côté de Bizet, qui à 19 ans remporte un concours de composition organisé par Offenbach au Bouffe Parisien en 1856. L'histoire du docteur Miracle, c'est le nom de cette opérette, se déroule en Italie, à Padoue. Le gouverneur de la ville et sa femme Véronique ont une fille, Laurette, qui est amoureuse du capitaine Silvio. Vous suivez ? Bien entendu, le père ne veut pas entendre parler de cette liaison. Mais Silvio se fait engager comme cuisinier sous le nom de Pasquin. Pour son premier jour, il est chargé de confectionner une omelette, qu'il apporte en grande pompe au petit déjeuner. Le gouverneur exulte, il adore les omelettes. Mais celle-ci est immangeable. Drame et indigestion. Le gouverneur est obligé de faire appel à un médecin, le docteur Miracle, nouveau déguisement de notre amoureux. Celui-ci ne consent à le guérir de la mort prochaine que contre un document accordant la main de sa fille au capitaine Silvio. Alors le passage le plus connu de cette opérette, c'est le quatuor de l'omelette. Extraordinaire morceau de bravoure de 9 minutes, dont les trois premiers entièrement consacrés à la seule présentation de l'omelette sur un texte aussi insignifiant que « Voici l'omelette, pour vous je l'ai faite », elle se compose, notez bien la chose, de beurre et puis d'œufs bien battus entre eux.
Pour juger des talents de Pasquin, c'est le nom du domestique, on lui commande de cuire une omelette. Après avoir cassé quelques assiettes, le drôle sert à ses maîtres un plat de sa façon.
Voici l'omelette.
Voici l'omelette.
Voici l'omelette.
Voici l'omelette.
Bien soigneusement, bien élégamment. Elle se compose, notez bien la chose, de beurre et puis d'œufs, bien battus entre eux.
Bien battu. sans plus tarder, déjeunons à table, allons. Elle n'a qu'un défaut, c'est d'être un peu petite. Mais sans plus tarder, dégustons. Dans ma vie, plus d'un plaisir, plus d'un bonheur, fille tendre et femme jolie, ont comblé les rêves de mon cœur. Mais il n'est rien, je le déclare. Quand j'ai bien faim sur le matin, qui me sourit et qui me dit: je suis ton déjeuner fidèle, je suis ton déjeuner fidèle. Viens, je t'attends, viens, je t'attends, viens, je t'attends, viens, je
déjeunons, oui, déjeunons.
Oh, voici le moment critique.
Quel goût bizarre et singulier.
Mais, en effet, cela vous pique. Mais vous déchire le gosier.
Qu'as-tu mis dans cette omelette?
Diable, ne perdons pas la tête.
Mais j'ai mis du beurre et des œufs.
Nous nous serons trompés tous deux.
Mon cher époux, c'est bien possible.
Non, décidément, c'est horrible.
Oui, c'est horrible.
C'est abominable.
C'est abominable.
C'est épouvantable.
C'est épouvantable.
C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais cette omelette, comment l'as-tu faite? Comment l'as-tu faite?
Mais cette omelette est pourtant bien faite. Voyez sa couleur, sentez quelle odeur, sentez quelle odeur, sentez quelle odeur.
Mais cette omelette, comment l'as-tu faite?
Sentez, 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 sentez
Les irrésistibles vocalises du Quatuor de l'Omelette, un extrait de l'opérette Le Docteur Miracle de Georges Bizet. Le gouverneur de Padoue était chanté par Camille Moran et le capitaine Silvio, alias Pasquin, alias le Docteur Miracle, était chanté quant à lui par le ténor Michel Hamel, un enregistrement de la radio-télévision française de 1952. Cette histoire d'omelette m'a donné faim, pas vous ? C'est peut-être le moment de rappeler à notre bon souvenir la merveilleuse prose de Madame Saint-Ange, qui signe chez Larousse en 1927 « La bonne cuisine », un ouvrage rapidement promu au rang d'icône. Ah, si notre Pasquin avait lu « La bonne cuisine », on n'en serait pas là. C'est qu'une omelette réussie demande, selon Madame Saint-Ange, de réfléchir d'abord au sens des mots. Je la cite. « Ne convient-il pas de s'entendre sur ce que représente une omelette bien réussie ? Les termes employés pour cette définition sont souvent impropres, discutables, tels celui de baveuse. Baveuse, au sens exact du mot, signifie l'omelette dont certaines parties sont très cuites, durcies et les autres à l'état liquide. C'est en somme une omelette mal cuite. Du reste, beaucoup de personnes qui vantent les mérites de l'omelette baveuse ont en réalité l'idée de l'omelette moelleuse, celle dont l'intérieur présente la consistance de brouillé et dont l'extérieur a tout juste la solidité nécessaire pour qu'on puisse la rouler sur elle-même. C'est là, réalisé, le prototype de l'omelette véritablement à point. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le troisième et dernier volet de cette série sur l'humour en musique. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Nicolas Delmas. À la semaine prochaine.